Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hirung.
Bonsoir. Publication par la CENI depuis vendredi dernier des résultats provisoires des élections législatives. Ces résultats concernent 155 centres locaux de compilation des résultats sur les 169 existants. Par conséquent, 432 candidats, dont 44 femmes, sont proclamés provisoirement députés nationaux. Quelle analyse faire de ces résultats publiés par la CENI? Nos invités sont Christian Badibangi, membre de l'opposition et allié de l'UDPS. Il est porte-parole de la plateforme Union Sacrée pour l'alternance. Monsieur Badibangi, bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Lutundula, député national de la majorité présidentielle, est président du mouvement Solidarité pour la démocratie et le développement MSDD. Honorable Lutundula, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Professeur Kabamba, bonsoir également.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Dixon de Lubumbashi au Katanga qui dit « J'estime que la CENI a correctement fait son travail malgré les pressions politiciennes qu'elle reçoit de la part des candidats qui ne veulent pas accepter sportivement leur défaite. » Imura Nisapro de Kindo Maniema, il est déjà clair que le Premier ministre pouvant diriger le gouvernement de la 4e République sera issu de cette majorité qui s'est déjà dessinée et que l'opposition doit désormais changer de stratégie en projetant sur les élections provinciales et autres. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, la CENI a publié les résultats provisoires des élections législatives. Déjà, 432 députés, dont 44 femmes, sont connus. Restent les résultats de trois circonscriptions de Kinshasa et quelques-unes des provinces comme Popokabaka au Bandundu, Kongolo au Katanga, Rutshuru au Nord Kivu et Mbujimai au Kasai Oriental, s'il ne faut citer que celles-ci. Mais avec ces 432 députés, est-il possible à ce stade de dégager quelques tendances relatives à la configuration de la future Assemblée nationale? La réponse avec vous, Innocent Olinga.
Oui, il est possible de dégager les tendances. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que, hormis les indépendants qui se retrouvent au nombre de 16 jusqu'ici, les 416 députés restants sont issus d'une quatre-vingtaine de partis politiques sur près de 440 que compte le pays. Le PPRD est en tête avec 58 élus, suivi de l'UDPS 34. Le PPPD vient en troisième position avec 28. Déjà, s'il faut parler en termes de l'ancienne majorité, on dirait que la sommation PPRD, PALU, MSR, ARC, COFEDEC, UNADEF, UNADEC et CCU donne 128 députés. S'il faut ajouter à cette majorité les nouveaux partis nés à la veille des élections comme les PPPD, les CT, les NAD, l'AFDC, les MIP, les RRC qui prennent 74 sièges, on est à plus de 200 députés auxquels il faut encore ajouter les partis qui donnent soit 1, 2, 3 ou 4 députés. À l'allure où vont les choses, l'ancienne majorité risque d'être reconduite, d'autant plus que la sommation des grands partis de l'opposition, UDPS, MLC, ULC, RCD-KML, IFC, ne réunit à peine que 80 députés. Encore faut-il qu'ils tombent d'accord pour unir leurs forces.
Merci Innocent Olinga. Honorable Christophe Lutundula, plusieurs observateurs pensent que certains plus ou plusieurs de vos anciens collègues n'ont pas été réélus. Peut-on parler déjà de vote sanction?
Bon, d'abord, permettez-moi de remercier Christian Badibangi. Je salue chaleureusement son retour à l'hémicycle après pratiquement 16 ans d'absence. Mon vœu le plus ardent est que, avec le retour de Christian Badibangi, l'arrivée de certains jeunes turcs comme France, Franck Diongo, Kambinga et consorts, il y ait de la valeur ajoutée au débat parlementaire. En tout cas, Christian, bon retour.
Merci.
Par rapport à la question, oui, lorsqu'on jette un regard sur l'histoire récente de notre démocratie, plus particulièrement depuis que nous sommes en phase électorale. Je peux prendre à partir de 2003, c'est-à-dire l'Assemblée nationale dirigée par Olivia Presancity. J'allais dire que la tradition a été respectée. Je ne connais pas encore le chiffre total, mais ça aussi toujours entre 9 et 10% de retour. Votre sanction, oui et non. Oui, dans la mesure où, effectivement, on ne peut quand même pas dire que le nombre qui rentre, cela a été fait par hasard. L'électorat est exigeant, les Congolais sont très exigeants, et surtout que de plus en plus, il y a une sorte de perversion, de déformation du rôle des députés par la substitution qui s'opère au niveau de l'électorat, qui veut nous voir, nous parlementaires, agir comme si nous étions le gouvernement. Je crois que c'est un dérapage très sérieux, très grave, qui mérite réflexion, même au niveau des scientifiques et plus particulièrement au niveau de nous-mêmes, les acteurs politiques, pour que cette culture des substitutions de rôles dont les parlementaires sont victimes soit quand même changée et qu'on l'on rentre dans la normalité, et c'est-à-dire dans le rôle classique de député,
honorable,
contrôlé, légiféré.
Honorable, donc, pour vous, votre sanction, pas tout à fait.
S'il vous plaît.
Je disais, pour vous, parler de votre sanction, ce n'est pas tout à fait ça.
J'ai dit oui, parce qu'effectivement, il y a un aspect sanction par rapport aux attentes de la population, et je déplore que ça ne soit pas toujours des attentes conformes à la concept des députés. Non, dans la mesure où, finalement, une analyse rigoureuse du vote qui venait de s'opérer conduit à constater que, malheureusement, qu'il y a un retour en arrière dans ce sens qu'il y a trop du tribalisme et du clanisme. À l'heure actuelle, je suis un homme de terrain, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais à l'heure actuelle, vous remarquerez que dans beaucoup de cas, le vote tribal, le vote clanique a beaucoup joué. Donc il faut relativiser les choses.
Alors, plusieurs observateurs pensent également qu'en ayant créé en ayant éclaté les partis, en ayant créé d'autres partis, entre guillemets, satellitaires, la majorité a réussi dans sa stratégie de rafler cette majorité à la future Assemblée.
Bon, là encore, il faut relativiser. Pourquoi je dis il faut relativiser? Il faut d'abord partir de l'idée que dans notre pays, le vote des députés provinciaux ou nationaux est un vote de proximité. Je me dis que c'est un peu plus les équations personnelles, la visibilité individuelle qui compte plus que l'appartenance partisane, plus que les couleurs politiques. C'est le fils d'un, c'est le fils du clan, et ainsi de suite. Donc, majorité qui de telle couleur, ça compte mais pas tellement. Ça, c'est un des deux. Effectivement, c'est une stratégie qui a payé dans la mesure où notre mode de scrutin limite le nombre de candidats à présenter. Vous pouvez avoir deux bons candidats dans une circonscription à deux sièges. Si vous les alignez tous sur la même liste, il n'est pas évident que vous aurez les deux sièges automatiquement avec le système de la proportionnelle. En ce moment-là, vous pouvez avoir un qui est sur la liste, un autre indépendant, ou bien les autres peuvent créer un autre parti pour avoir, si vous voulez, des vraies fausses couleurs politiques. Voilà comment moi je trouve ça par rapport à votre question.
Honorable Lutundula, il y a Stéphane de Kalemio-Katanga qui dit les résultats publiés sont les mêmes il y a peu. Quel est alors le rôle joué par la suspension de la proclamation par la CENI? La population n'ira plus voter car les élections ne sont entre guillemets qu'un simulacre. Les députés semblent d'avance désignés.
Non, je ne sais pas sur quelle base il affirme cela. Moi, je n'ai pas eu à l'avance les projections de chaque circonscription électorale, c'est normal. Moi, je ne suis pas à la CENI. Moi, je juge sur pièce. Au fur et à mesure que l'on proclame, j'apprends et je vois que, bon, il y a tel collègue candidat ou ancien collègue député qui est élu ou qui est réélu. Donc là, je ne sais pas, je n'aime pas faire de procès d'intention. Moi, je juge sur pièce. Moi, je pense qu'il y a eu proclamation de résultats. Certainement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des contestations qui sont portées ou qui seront portées très rapidement devant la Cour parce que le délai de recours est de 8 jours. Moi-même, j'ai déjà porté un recours pour la circonscription électorale de Lusambu où on nous a volé la victoire. Et je dis que bon, c'est le processus continue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême.
Merci.
Donc moi, je prends les choses telles que moi qu'elles se présentent à moi. Je ne me livre pas à des procès d'intention pour dire oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Non.
Merci, honorable Christophe Lutundula. Christian Badibangi, ces résultats présagent-ils déjà une nouvelle configuration politique d'après vous?
Merci, mais je commence d'abord par remercier tous mes électeurs, ceux qui m'ont élu à Dimbelenge, qui ont considéré que la parole a créé l'image, c'est le monde, comme Dieu l'a fait, et que j'estime que lorsque nous avons mené une campagne de la manière que nous l'avions menée, avec la parole tout simplement, avec l'assurance de tout ce temps que nous avons mené pour essayer de former, informer et instruire notre peuple à prendre la responsabilité de gérer seul, d'avoir l'autosuffisance de gérer sa propre son propre processus électoral. Et j'estime que cette population, cette circonscription, la population de Dimbelenge mérite bien mes éloges et je le remercie et le félicite pour cela.
La configuration.
Et j'envoie aussi la reconnaissance à Christophe Lutundula dont il parle de 16 ans, dont il se rappelle du combat politique. Et l'honneur est à ce que nous disons, la constance dans notre démarche politique finit toujours par payer lorsqu'on donne une identité morale et standard à notre peuple. Cela permet à ce que le peuple se retrouve.
Voilà, refermons la parenthèse, revenons à la configuration politique.
La configuration politique actuelle, avec beaucoup plus de précision, il y a beaucoup de choses que Christophe Lutundula a essayé de dire, donc j'abonde dans son sens, et surtout dans les aspects ethno-tribalo-fétichistes, et lorsque, et c'était un retour en arrière par rapport à la conférence nationale souveraine, c'était un retour en arrière par rapport au processus point 2, c'est-à-dire je considère comme si nous venons d'organiser les deuxièmes élections après la conférence nationale souveraine, on devrait faire des avancées très considérables. Et j'estime aussi, quand il parle de la tricherie et des tripatouillages identitaires, lorsqu'on va aux élections, on dit au peuple que nous sommes pour les changements, et pourtant on est pour les statu quo, et pourtant on est avec ceux qui ont géré les pays, et pourtant on est responsable de certaines situations sociales depuis 5 ans de la législature passée, et qu'on puisse se porter en caméléon, donc on a trompé la vigilance de notre peuple. Là, je reconnais, M. Christophe a eu raison, et surtout quand il dit aussi qu'il a introduit une requête auprès de la Cour suprême de justice, autant pour l'Union socialiste congolaise, mon parti, est-ce qu'on nous a volé la victoire dans la ville, dans la circonscription de Tshikapa-Ville, avec Zachary Kenda, nous disons non, il faut qu'on restitue la vérité des urnes et la justice des urnes. Donc je considère qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à corriger, mais je me dis par degré de conscience, lorsque nous nous posons les problèmes au niveau de l'opposition, nous estimons que nous mettons en minorité les tripatuages et les considérations législatives, et que nous privilégions d'abord plus le présidentiel qui divise. Pourquoi alors, lorsque les 14 820 personnes de la famille politique à laquelle je n'appartiens pas, de la majorité présidentielle, estiment qu'il y a eu erreur, irrégularité, tripatuage, tricherie, le même jour que s'est passé ces élections couplées, présidentielles et législatives, et j'ai l'impression que les gens donnent plus priorité aux élections législatives et mettent moins de considération aux élections présidentielles. Il y a injustice, il y a manque de considération. Lorsque l'Église catholique nous invite au confessionnal pour qu'on puisse dire la vérité des urnes, c'est confier à l'Église, l'Église qui est au milieu du village, et que nous ne sommes pas en mesure de regarder l'Église dans les yeux et en face. Donc, quelque part, nous avons une conscience chargée. Badibangi, je me dis, la considération première est de remettre l'équilibre de réflexion dans la tête de nos populations, de manière à considérer que les élections ont été des élections couplées, présidentielle et législative. On ne peut pas mettre plus le cap sur le législatif et mettre moins de cap sur le présidentiel.
À votre avis, Christian Badibangi, s'agit-il d'un vote sanction?
Oui, effectivement, le vote a été un vote sanction, même quand le président Christophe Lutundula se défend. Bon, c'est vrai, il fait partie de la famille politique à laquelle je n'appartiens pas, mais il comprendra qu'il a été combattu sérieusement à Lodja et ailleurs. Il y a eu mort d'homme par conscience, par les gens qui estiment avoir la puissance publique du pouvoir, parce qu'ils sont membres du gouvernement, parce qu'ils sont responsables à tel autre niveau. Il en a payé le prix. Moi, je considère que son degré de patience ne le pousse pas à taire la vérité. Même si nous ne sommes pas de la même famille politique. L'essentiel, c'est d'essayer de dire la vérité. La vérité, c'est quoi? Et que le vote, c'est réellement un vote sanction. Il y a des gens qui sont partis là-bas avec une conscience tranquille et qui se disent, je réponds de mon comportement pendant 57 législatures. Il y a d'autres qui disent, je suis là, j'y reste. Et ils utilisent la puissance publique de l'État pour s'y maintenir. Là, nous devons nous le dire. Ça, c'est clair.
Vote sanction même pour certains opposants.
Non, je crois aussi. qu'au niveau de l'opposition, c'est vrai. Nous avons plusieurs catégories et types de l'opposition. Il y a l'opposition qui estime être fichée par ceux qui gèrent le pays actuellement, qui ont eu la chance de se reconduire mutuellement pour la prochaine législature et qui disent, je n'aimerais pas voir la tête de tel. Ça, je ne peux pas confirmer, Badibangui, je me dis, il faudrait absolument qu'on puisse revisiter ensemble les urnes ou les bureaux de vote pour affirmer cela. Mais déjà, lorsque il y a hésitation de report en report, il y a un problème. On ne peut pas aller de report en report. Ah, dites-moi, parce que vous êtes gentil, je vais vous le dire. Lorsque, dans la même ville de Kinshasa, on ne peut pas nous donner les résultats de la Tchango, et qu'on estime qu'on doit le redonner mercredi, ou plus tard que mercredi, et qu'on nous donne d'une manière charcutée ou saucissonnée les différentes circonscriptions électorales dans la même ville de Kinshasa, où les élections se sont passées les mêmes jours, où les gens sont allés aux élections couplées. Comment vous expliquez cela? Il y a un problème.
Professeur Félicien Kabamba, quelle est votre analyse? Quelle est l'analyse que vous faites de ces résultats publiés par la CENI?
Il faut avouer que on a toujours dit, et nous sommes revenus là-dessus plusieurs fois, que l'organisation de ces élections est une organisation qui avait beaucoup de faiblesses. Faiblesses ont été remarquées aussi bien le jour des élections que dans les opérations qui ont suivi l'organisation de scrutins. Et donc, aujourd'hui, parce que la CENI n'avait pas su mettre ensemble les partis politiques autour de l'organisation des élections, il est très difficile que la CENI le mette ensemble autour de résultats. Et donc, ce mauvais départ ne pouvait que présager un atterrissage assez forcé comme celui auquel on assiste aujourd'hui. En fait, on a l'impression que la CENI se retrouvait devant une situation probablement à laquelle elle ne s'attendait pas, une généralisation de contestation, au point qu'aujourd'hui, eh bien, elle était débordée, dépassée, elle était réellement en difficulté. Et donc, l'ampleur de contestation, l'abondance de plaintes, nous amène à remarquer que la CENI n'avait pas suffisamment de temps pour examiner chaque dossier pièce par pièce. En tout cas, je ne vois pas comment matériellement la CENI disposait du temps et des moyens suffisants pour compulser, examiner, étudier cas par cas. Et donc, la solution qui aujourd'hui nous est présentée, c'est-à-dire la publication de résultats, apparaît comme une sorte de replâtrage. Donc, devant les difficultés, eh bien, il fallait montrer que il est possible de trouver une solution, même une solution de moitié, même une solution de tiers, mais en fait, il fallait un jour que les résultats soient publiés. Et les résultats sont publiés. Mais en fait, le problème maintenant, c'est que chaque élection, on ne peut pas dire qu'il y a une élection parfaite, elle n'existe pas. Le problème ici, c'est le taux d'incertitude, le taux d'imprévisibilité qu'il y a dans l'organisation de ce scrutin. C'est véritablement là le problème. Et il me semble que ce taux est très élevé. C'est là que la CENI a peut-être des responsabilités à dégager. Et j'étais un peu surpris de trouver que dans la déclaration de la CENI, elle semble pointer de doigt plutôt le candidat, certains candidats qu'elle accuse d'avoir voulu corrompre ou organiser la tricherie, et la CENI ne semble pas se responsabiliser elle-même. Parce que s'il y a un corrupteur, il y a également un corrompu. Comment donc justifier le fait que la CENI envisage de traduire en justice les corrupteurs et oublie les corrompus, qui est en fait la CENI? Et du coup, il fallait que la CENI se mette également sur scène, se trouve être, parce qu'elle a déjà accepté qu'il y a eu évidemment beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incertitudes dans l'organisation des élections, il fallait qu'elle assume cette responsabilité et non pas seulement la jeter sur l'acteur politique qui est présenté comme le corrupteur.
Professeur.
Et là, il y a véritablement un problème. Il y a des responsabilités qu'elle doit assumer, il y a des responsabilités qui sont assumées par les personnels politiques, mais je crois que tout cela aurait pu mieux se passer si, au départ, un certain terrain d'entente s'était créé autour de l'organisation de ce scrutin, ce qui n'a pas été le cas.
Alors, professeur, en parlant effectivement de cet aspect, vous dites que l'ampleur des contestations prouve que la CENI n'a pas eu le temps d'examiner les dossiers au cas par cas. Ne sommes-nous pas là en train de revenir sur pratiquement le péché originel dans la mise en place de la CENI qu'on pourrait amputer en partie à la classe politique?
Bon, disons qu'il y avait déjà des erreurs du départ, hein. Ça, on en a parlé par le passé. Parce qu'en fait, la CENI devait être un organe, et je crois que c'est pour cela qu'elle a été choisie, c'est un organe chargé que de la gestion de la question électorale, et donc c'est un organe et d'un autre qui est chargé de la gestion. Et c'est pour cela que la CENI devait être en fait au milieu du village, qui ne devait pas être une instance prise en otage par les partis politiques ou par ceux qui contrôlent l'appareil de l'État. Mais il me semble que ça n'a pas été le cas.
Professeur, il y a le chef des travaux Kakwat de Lubumbashi au Katanga qui dit, même sur ses députés publiés, beaucoup seraient à invalider, mais il est regrettable pour un parti ou groupe des partis politiques de couvrir, de tolérer et de protéger au nom de la cohésion politique des hauts cadres corrupteurs, corrompus et immoraux. Que sera alors l'avenir du pays si l'élite est le fruit de la fraude, l'impunité et la médiocrité? Professeur, se poserait-il un problème de légitimité, d'éthique, de morale par rapport à la future Assemblée nationale après la publication de ces résultats?
Ce qui est vrai, c'est que si les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes, là déjà il y a un problème de légitimité. Alors, c'est pourquoi je vous ai parlé du taux d'incertitude. Quel est le niveau du taux d'incertitude dans l'organisation des élections? Si le taux est élevé, eh bien la question de légitimité se posera également avec trop d'acuité. Mais si le taux est dans des proportions acceptables, eh bien on peut dire qu'il n'y a pas d'élection tout à fait parfaite partout, eh bien on peut vivre avec. Alors le problème qui se pose ici, c'est le taux d'imprévisibilité dans l'organisation des élections. Avoir le niveau de contestation, je crois qu'il y a réellement là un problème de légitimité qui risque de se poser.
Professeur, à vous également la même question. S'agit-il d'un vote sanction?
Je crois que là-dessus, vote sanction, il faudra plutôt voir la question un peu de la manière dont l'a analysé. C'est-à-dire, il y a là une stratégie qui a été conçue, qui est en fait celle du saupoudrage partisan. Il a consisté en fait à la multiplication de nombre de partis politiques pour empêcher certains candidats de se présenter sous le même label que lors des élections passées. Et du coup, certains candidats se sont présentés sous le label de partis naissants et donc de partis inconnus. Et du coup, ils se sont retrouvés à... Donc, je crois que certaines personnes qui probablement n'ont pas eu donc n'ont pas trouvé leur place au sein des grands partis, se sont rabattus sur de petits partis qui ont été probablement financés et certains d'entre eux ont été élus. Votre sanction, c'est aussi possible. C'est aussi possible quand on sait que généralement, quand les candidats, avant d'être élus, les candidats font beaucoup de promesses et à l'arrivée, rien n'est réalisé. Et donc, il est tout à fait possible que la population qui vous avait élu lors des premières élections ne puisse pas renouveler la
confiance.
Merci, professeur. En attendant, je vous demanderai de bouger un tout petit peu parce que votre ligne a tendance à se dégrader pour faciliter la communication. Mais notez que la CENI reconnaît qu'il y a eu des irrégularités lors des élections, mais elle déplore le fait que personne n'ait dénoncé des cas de violence dont elle a été victime en cette même période. Le président de la CENI propose à cet effet à la Cour suprême de justice d'annuler les élections dans certaines circonscriptions et de juger certains candidats présumés auteurs des cas de violence. Daniel Ngoy Mulunda dans ses propos, recueillis par Michel Kifindangoy.
La CENI fait observer que l'Assemblée nationale ne dispose que de 500 sièges à pourvoir et qu'il est normal que les contestations prennent de l'ampleur car sur 18 865 candidats enregistrés, 18 365 sont censés perdre. La plupart des corrupteurs se sont malheureusement recrutés parmi les 18 865 candidats à la députation nationale. Le bureau de la CENI a décidé de proposer à la Cour suprême de justice l'annulation des élections législatives des circonscriptions électorales suivantes. Kiri dans la province de Bandundu, Ikela dans la province de l'Équateur, Punia dans la province du Maniema, Masisi dans la province du Nord Kivu, Kole et Lomela dans la province du Kasaï oriental, Demba dans la province du Kasaï occidental.
Honorable Christophe Lutundula, comment vous analysez ces propositions de la CENI à la Cour suprême d'annuler les élections dans certaines circonscriptions électorales et de mettre à la disposition de la justice certains candidats présumés auteurs des cas de violence?
Oui, merci, mais permettez tout de même que je dise un mot sur ce qui vient d'être développé par mes interlocuteurs. D'abord, j'apporte un démenti cinglant par rapport à ce que mon ami Christian Badibanga a dit. Au Sankourou, il n'y a pas eu un seul mort le jour du scrutin ou du fait direct des élections. Nulle part cela n'a été noté. Donc, je ne peux pas laisser passer cela. Votre sanction au Sankourou, j'ai dit aussi qu'il faut très 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 relativiser parce que des résultats proclamés jusque-là, publiés, il ressort que, en dehors de Loubefou, tous les autres élus sont de la majorité présidentielle. C'est une précision que je voulais apporter. Des deux, vous avez posé une question fondamentale à laquelle on n'a pas fait beaucoup attention. La configuration de l'Assemblée, la géographie politique. Il est clair aujourd'hui, comme l'a dit Olenga dans les statistiques qu'il a présentées, que tout porte à croire que la majorité présidentielle sera reconduite quelque peu réduite et un peu plus émiettée. La conséquence logique, comme je l'ai dit à une émission avec vous, est que la légitimité du président Joseph Kabila est consolidée. Et je le dis que dans un système de type parlementaire, on ne juge pas de la légitimité d'un président de la République du fait de son élection seulement. Il faut voir la concordance, la relation avec la majorité parlementaire, surtout à l'Assemblée nationale. Donc là, le leadership du président Kabila est confirmé, son rôle dirigeant, et il n'est pas exclu, c'est le deuxième point, la deuxième leçon, que dans les jours à venir, il y prendra des initiatives importantes pour permettre justement aux institutions de la République de reprendre le fonctionnement régulier pour permettre de restaurer la paix civile, la concorde nationale et la sérénité comme l'y oblige l'article 69 de la Constitution et le lui donne droit l'article 78 de la même Constitution. Et la question des responsabilités, avant d'arriver à ce que vous dites, parce qu'en fait, ce que vous posez là comme question rejoint ce que le professeur a dit concernant les responsabilités. C'est vrai qu'il y a des responsabilités assumées par la classe politique. On en a parlé avec le professeur et vous-même à une émission il y a quelques semaines, lorsque nous avons parlé du péché originel. Il y a aussi, comme il est dit, des responsabilités à assumer par la CENI. Ce que la CENI a fait, la demande d'annulation, la démarche pour déférer devant le prétoire les auteurs présumés des faits répréhensibles, des faits infractionnels, va dans le sens d'assumer les responsabilités. Et j'ai noté aussi que le pasteur Mulunda a dit que la CENI se livrerait dans les jours à venir à l'auto-évaluation. Je les encourage et je forme le vœu que ce soit une auto-évaluation rigoureuse avec toutes les conséquences à tirer pour l'avenir. Il y a une responsabilité à laquelle on ne fait pas allusion. C'est celle de l'administration publique en particulier, de la territoriale, la police et la justice. En effet, s'il est arrivé à certains endroits que les agents de la CENI, que les opérateurs politiques, partisans, se livrent à des actes infractionnels, quelque part aussi, c'est parce que notre système sécuritaire, le maintien de l'ordre public, n'a pas fonctionné. C'est l'absence de l'autorité de l'État qui a fait que certains se sont permis d'empêcher même les témoins des autres candidats de se rendre au bureau de vote situé à des endroits où ils bénéficient d'un loyalisme tribal et ethnique. Vous voyez. Merci. Donc là aussi, il faudra qu'on procède à cette évaluation-là. Merci. Et à Christian Balibangui, et même au prof, le prof n'est pas un acteur politique, en tout cas, sur le plateau, il ne l'est pas, nous devons être rigoureux et réajuster le tir. Je dis à Christian que nous avons une grande perspective à ouvrir dans les jours à venir avec les provinciales, les sénatoriales et tout le reste. De ce côté-là, d'un mot, j'ai toujours dit, hâtons-nous lentement vers le provincial pour ne pas rééditer les tristes exploits de ce qui vient de se passer, si tant que je peux parler d'exploits. Voilà.
Merci, honorable. Notez avant de réagir, Christian Balibangui, l'UDPS, Tshisekedi, refuse de participer à la prochaine Assemblée nationale. Selon ce parti, ses députés proclamés par la CENI élus ne vont pas prendre part à cette législature étant donné que le chef du parti avait déjà annulé les élections législatives. Mais Maître Serge Mayamba, secrétaire national à la communication de l'UDPS, précise que le débat reste ouvert au sein du parti tout en privilégiant son unité. Maître Serge Mayamba est joint par Jeff Ndoye.
Étant donné que le président du parti s'était déjà prononcé par rapport à l'élection législative qu'il a annulée et que le secrétaire général du parti a fait également une déclaration allant dans le sens, c'est-à-dire que les députés élus du parti ne vont pas participer, cette question ne nécessite plus des commentaires parce que cela est défini en termes de position du parti. Donc tout ce que je peux faire, c'est vous confirmer ce qui a été dit par ces deux autorités du parti.
Est-ce que vous ne craignez pas que la politique de la chaise vide ne paye pas, vous n'en tirez pas les leçons du passé?
Je crois que, comme qui dirait, le reste est à venir. En politique, on doit apprendre à poser les actes et à les assumer. Donc, pour nous, nous estimons que s'il y a des réflexions à faire, nous le ferons dans le cadre interne du parti. Mais pour le reste, nous devons privilégier l'orientation qui a été donnée par le parti. Mais nous sommes un parti démocratique. Je sais que certaines personnes pourront susciter ce débat.
Christian Balibangui a une assemblée nationale qui siégerait sans pratiquement la deuxième force politique qui est l'UDPS. Comment vous analysez cet aspect?
Non, d'abord, il faut que je porte un petit correctif à ce que j'ai entendu dire les profs et mon ami Christophe Lutundula lorsqu'il part qu'il n'y a pas eu de problème dans les Sankourou. Je sais qu'à Lusambo, lui, il a confirmé qu'il a introduit une requête. Et j'ai fait partie d'une population et surtout d'une ethnie qui est à Lusambo, c'est-à-dire les Bakwamputu Balwapula. Donc, je sais ce que je dis, il y a des difficultés. D'ailleurs, il l'a confirmé lui-même en faisant la requête et que Radio Okapi avait annoncé qu'il y a des difficultés internes au niveau de cette localité sur le plan électoral. Mais ce qui m'intéresse ici, Christophe n'a pas abordé les problèmes. Il y a eu des élections couplées. On parle très peu de présidentielle. J'ai considéré que 86% des contestations législatives viennent plus de la famille politique du chef de l'État sortant. La famille politique à laquelle je n'appartiens pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on tait? Lorsque la CENI nous donne l'occasion de revisiter notre circonscription avec détail de toutes ces flagrances, et le président de Tundula est allé même en termes de poursuites en pénal, je considère que on ne peut pas parler de législatives avec des élections couplées avec les mêmes électeurs, les mêmes urnes et les mêmes votants, la même CENI, et oublier qu'on doit parler de présidentielles du même jour.
Alors, donc, puisque vous insistez, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Il y a une démarche teintée où je me dis, nous devons éviter de charger nos consciences par une certaine tricherie d'accommodation pour essayer de donner la conscience tranquille à ce qui vient de se passer. Badibangui, je me dis, nous estimons que Tshisekedi était gagnant aux élections présidentielle. Il y a d'autres qui estiment que la CENI a confirmé que c'était le président sortant qui a gagné les élections présidentielles. Tout comme les 14 700 et quelques personnes de la famille politique à qui je n'appartiens pas, qui ont concouru aux élections législatives, ont des difficultés d'accepter les verdicts des urnes. Voilà. Vous refusez cela, tu sais que dit, mais vous l'acceptez pour les législatives. Il y a un torse dans la démarche.
Mais les députés de l'UDPS, Christian Badibangui, ne siègent pas.
Non.
Et vous êtes un des alliés de l'UDPS.
Je suis allié de l'UDPS. Je crois que cette question viendra rapidement au niveau de l'opposition pour qu'on puisse l'apprécier ensemble, de manière à ce que d'une manière tactique...
En tant qu'allié, vous êtes d'accord, vous prendriez la même position, jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Non, cher ami, ne me conditionnez pas, laissez-moi terminer mes idées.
Allez-y, je vous en prie.
Je me dis tout simplement, écoutez, plusieurs partis réfléchissent au niveau de l'opposition pour voir comment arriver à la vérité des urnes, comment arriver à la justice réclamée tant par l'Église catholique qui représente 85%
oui,
de la population.
Oui, mais là, Christian Badibangui siégera, ne siégera pas.
Non, ça c'est mathématique ce que vous posez.
Et la réponse...
Laissez-moi motiver. Je me dis, j'ai des alliés. En 2005, les alliés ne sont pas allés aux élections présidentielles ou législatives de 2005. Ils étaient en dehors du jeu. Badibangui, j'étais allé dans le jeu.
En dehors.
Ah, j'étais allé dans le jeu. Moi, avec mon ami Gabriel Mokia, nous avons dit, nous jouons le vis-à-vis, le front, c'est-à-dire l'affrontement avec la famille politique à laquelle nous n'appartenons pas, pour ne pas laisser l'occasion de poser n'importe quel acte. Et de cela, je tire des conclusions. Je me dis, j'ai bien peur de laisser la tâche facile à la famille politique à laquelle je n'appartiens pas.
Christian Badibangui,
l'UDPS, non, s'il vous plaît, que l'UDPS n'assiste pas, eh bien, ça nous donne un boulevard facile qu'on parte. Est-ce que si nous voulons assister, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que notre objectif, c'est de dire l'ingouvernabilité d'un processus qui n'a pas abouti à respecter le verdict et la vérité des unes et de la justice est une démarche. D'autres disent, nous pouvons bouder en quittant l'hémicycle, en donnant la tâche facile à des gens qui ne comprennent pas.
Et quelle est votre
pas.
Position dans tout ça?
Ma position est très simple.
C'est laquelle?
J'ai dénoncé les sorciers partout où il sera.
C'est-à-dire?
Dans l'eau, dans le Parlement, dans les airs et dans les champs.
Donc, vous siégerez, on a compris.
Je poursuivrai l'adversaire partout où il sera.
Voilà. Professeur Félicien Kabamba, vous avez suivi tout à l'heure le président de la CENI concernant les propositions de cette institution à la Cour suprême d'annuler les élections dans certaines circonscriptions électorales, ainsi que de poursuivre certains candidats présumés auteurs des cas de violence. Vous avez également suivi la position de l'UDPS. Quelles sont vos analyses?
Personnellement, je crois que il sera très difficile pour l'UDPS, il a passé beaucoup de temps dans une opposition, de prendre une décision du genre, nous n'allons pas être dans les institutions. Ce serait pour moi une décision assez difficile en ce moment. Par contre, comme l'UDPS n'a pas été dans les institutions ça fait plusieurs années, moi je crois qu'ils peuvent, là, jouer un très grand rôle dans l'avancée de la politique du pays en entrant dans les institutions. Parce qu'en fait, c'est dans les institutions où beaucoup de décisions, beaucoup de lois se prennent. Et donc, ils peuvent commencer par le législatif et progressivement contrôler des grandes provinces qui peuvent gérer et montrer un exemple d'une gestion différente de la gestion d'aujourd'hui. Par rapport à ça, je crois qu'il serait pratiquement difficile pour l'UDPS, et là m'étonnerait personnellement, au point de vue de l'analyse politique, que l'UDPS prenne la décision de dire nous nous retirons de l'Assemblée nationale et donc nous n'occupons pas nos sièges. Par contre, il y a, selon moi, une position qui me semble équilibrée, qui est celle de dire, ok, il y a eu tricherie, on nous a volé les voix, on nous a volé les sièges, mais notre lutte continue, mais elle ne va pas continuer en dehors des institutions, nous allons entrer dans les institutions. C'est peut-être là une autre manière de faire la politique. Alors, par rapport à la configuration du gouvernement, moi je crois que là, nous sommes vraiment dans une situation très difficile parce que la configuration actuelle du Parlement est une configuration dans laquelle une majorité ne se dégage qu'après une gymnastique extrêmement compliquée, étant donné une dispersion qui me semble assez extraordinaire de sièges. Et donc, il faut une coalition beaucoup plus large qui soit à mesure d'être consolidé à travers un certain ciment qui pourra être construit avec le temps, Et là, je peux vous dire que un tel gouvernement, qui sera issu de cette majorité, ne pourra véritablement durer que si il y a une certaine homogénéité de vision au niveau de la majorité. Et il sera très difficile de maintenir la cohésion au sein de cette majorité, à moins qu'une véritable vision de la manière dont le pays va être géré ne soit installée. Mais je crois qu'il sera très très difficile, dans une telle configuration du Parlement, d'avoir une majorité, un gouvernement très stable.
Professeur, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer cette émission. Deux petites questions que je vais coupler en une. La première, vous avez suivi Christian Badibang qui insiste sur le fait que les élections étaient couplées. Jusqu'à ce jour, on devrait tenir compte également des présidentielles. Vous nous donnez votre analyse et Christophe Lutundula a tout à l'heure dit que cette majorité parlementaire consolidait la légitimité du président Kabila.
Non. Ce qui est vrai, c'est que quand on a parlé du processus électoral, c'est un processus qui concernait aussi bien la présidence que les législatives. Et donc, je ne vois pas sur base de quoi un analyste me dit que bien, du côté présidentiel, les choses étaient très orales. C'est par contre du côté des législatives. Pas du tout. Un tel argument, scientifiquement parlant, ne peut pas tenir. C'est des élections qui ont été organisées par la CENI, avec les mêmes acteurs, dans les mêmes circonstances. Et donc, on peut dire que les faits tels que dénoncés au niveau du législatif, on peut également les dénoncer au niveau présidentiel.
Merci, professeur.
Au contraire, et carrément scientifiquement étonnant.
Merci, professeur. Honorable Lutundula, il va déjà falloir conclure. Vous avez suivi la position de l'UDPS. Quelle est votre analyse à ce sujet?
Bon, très rapidement, non. Je crois que le professeur ne remet pas en cause le fait que dans une démocratie parlementaire, lorsqu'il y a concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, le leadership du président de la République est consolidé. Le cas de la France le démontre quand il n'y a pas cohabitation. On ne va pas perdre le temps sur ces débats-là. Scientifiquement, cela est démontré et je crois que le président s'en sort renforcé, ce qui ne serait pas le cas s'il y avait une majorité de l'opposition qui amènerait à la cohabitation. L'UDPS, non. Moi, je pense que, comme l'a dit le professeur, c'est une mauvaise voie. Je dirais que c'est une faute politique grave et qui démontre, même quand Christian parle, à quel point nous sommes toujours dans la culture présidentialiste. On continue à considérer qu'il n'y a de pouvoir d'État au niveau du président de la République. Et c'est grave. Tout ce combat qu'on a mené tout le temps depuis la CNS pour avoir un État fortement décentralisé, ramener la République aux citoyens, le pouvoir à la base, qu'est-ce qu'on en fait?
Merci.
Moi, je crois que l'UDPS a peur d'exercer le pouvoir d'État.
Merci.
Il y a des espaces d'action politique et d'action de gestion dont il peut tirer profit.
Merci,
je termine sur ce point-là que l'UDPS est la deuxième force de l'Assemblée jusque-là. Et enfin, en ce qui concerne la cohésion de la majorité, oui, c'est vrai, la majorité actuelle sera difficile à gérer, mais moi j'ai confiance tout simplement parce que nous avons un dénominateur commun, le président de la République, autour duquel la majorité va consolider et c'est la conséquence de la proportionnelle, malheureusement.
Merci, honorable. Christian Badibang, en guise de conclusion, c'est une faute politique grave, la position de l'UDPS. Hein.
Non, je considère que en obéissant aux dispositions constitutionnelles dans les articles 64 et 66 de notre Constitution, je crois que l'UDPS exerce ce qui est reconnu officiellement par notre propre constitution. Mais je voulais rapidement revenir à ce que Christophe a essayé de privilégier en disant, en minimisant le présidentiel par rapport aux législatives, en oubliant tout simplement que nous ne sommes pas dans un état de droit. Et par contre, essayer un peu de précipiter certaines choses en voulant dire on peut minimiser ceci et privilégier cela, je pense que c'est une mauvaise analyse.
Merci. Professeur Félicien Kabamba, un mot en guise de conclusion.
En guise de conclusion, on peut dire que le processus démocratique a été organisé de la manière où il a été. Tout ce qu'il faut voir maintenant, c'est envisager l'avenir. Et je crois que l'avenir devrait être fait avec les mêmes acteurs politiques.
Merci. Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, Guy Maté, Kevin Couté, Samuel Kachak, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la technique Sylvain Matundu et Bob Landou, à la coordination et à la présentation Alain Irung. Merci également à vous de nous avoir suivis. À demain, même chaîne, même heure. Au revoir.